Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Cette semaine, nous revoici du côté de la métropole Rouen-Normandie. Vous le savez maintenant, le territoire a signé avec de nombreuses associations, des entreprises, bref, de nombreux partenaires, un accord local pour le climat en décembre dernier. La conversation que vous vous apprêtez à entendre a été enregistrée avec une partie prenante de cet accord. L'association s'appelle Le Champ des Possibles et mon invitée en est la coordinatrice, Karen Yvan. Jardiner la ville, transition alimentaire, faire face aux aléas, se battre contre la pression foncière, trouver ou retrouver l'autonomie de réfléchir et de la douceur aussi. Et en prime, en fin d'épisode, vous découvrirez pourquoi je n'aime plus la fable du colibri. Je n'en dis pas plus, bonne écoute. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Karen.
Bonjour.
À chaque fois que l'on se croise, on parle de nourriture.
Oui,
bien souvent. Et pour cette conversation tournée vers 2050, on va parler un peu d'alimentation, mais sous un angle particulier. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais que tu nous parles de l'endroit que tu as choisi pour abriter notre conversation.
Oui, ben, l'endroit c'est très simple, c'est qu'on est... au Champ des Possibles, à l'association du Champ des Possibles, sur le site de Repinville, donc le parc naturel de Repinville. Et on est dans la salle d'animation, qu'on appelle nous la grande salle, la salle d'animation.
Donc il y a à la fois une cuisine, sur la droite, un grand tableau noir au fond, un tableau d'école, une grande table. Nous, on est confortablement dans un petit canapé.
Voilà. Ouais. On essaye que ce soit... parce que de l'extérieur, voilà, c'est des bâtiments mobiles, en fait, qui ont été installés. Donc on se dit que bah à l'intérieur il faut que ce soit un peu chaleureux parce qu'on accueille du monde en fait ici. Ouais.
Et qui vous accueillez justement ?
Alors on accueille des groupes de toutes sortes. Genre, quand je dis de toutes sortes, je veux dire de tous âges, pour cuisiner surtout et aller au jardin, mais pour l'instant surtout cuisiner.
D'accord.
Et notre idée c'est de dire qu'on peut cuisiner au quotidien avec des produits locaux, de préférence bio.
Oui.
Et ça, on en parle beaucoup. et qu'on peut se faire plaisir et que ça coûte pas si cher. Et que ça participe à la fois de la santé de la planète, comme on dit en ce moment, et de la nôtre, quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, on travaille avec pas mal de structures sociales, en fait.
Oui, parce que justement, tu disais de tous les âges, mais quel type de profil ? Donc, beaucoup de personnes
Via des qui sont fragilisées par diverses situations, en fait. Mm-hmm. Et du coup, c'est intéressant parce que... notre idée, c'est de se dire comment on avance sur des sujets de transition avec cette fameuse question sans laisser grand monde le bord de la route.
Ouais.
Après, on peut travailler avec d'autres publics. Hein. On travaille ici et ailleurs, d'ailleurs, parce que là, je dis qu'on accueille des groupes, mais on travaille aussi sur le territoire de la métropole.
D'accord, donc les animations se déplacent aussi, vont à
exactement.
La rencontre aussi du public.
On va aussi à la rencontre dans les quartiers, à Sotteville, à Saint-Étienne, à Darnétal. Et on travaille pareil, alors avec des maisons de quartier par exemple, ou avec le service de développement social, on va en pied d'immeuble, en stand, donc on fait de la sensibilisation, et alors c'est pas des cours de cuisine, hein, c'est vraiment des ateliers, c'est vraiment des moments de partage.
D'accord, donc tout le monde met la main à la pâte, pas que à la pâte, dans les légumes, etc. Alors, donc, sur ce site de l'association, il y a ce local d'animation, mais on est au milieu de terres maraîchères.
Oui.
Qui sont cultivées par l'association aussi.
Voilà. Alors ça, c'est un changement qui est en cours, parce que effectivement, l'idée de l'association, c'est de se dire, on fait de l'agriculture en ville.
Ouais.
Mais derrière ce mot-là, on peut mettre plein de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une agriculture professionnelle avec quelqu'un qui est agriculteur de métier, et puis il peut y avoir tout ce que je commence à évoquer là, c'est-à-dire on peut faire du jardin en ville, voilà. On peut faire du jardin avec comme idée de devenir autonome, par exemple en légumes, on peut faire du jardin comme idée en disant on partage des moments avec d'autres du même quartier. On peut faire du jardin pour comprendre comment ça pousse, hein, souvent avec les enfants, hein, de dire voilà, malheureusement on dit souvent les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont besoin de retrouver ce lien-là et comment ça se passe. Et donc ici, l'idée à Repainville, la première idée qu'on avait, c'est effectivement de pouvoir faire du maraîchage en même temps que cette activité d'éducation, en fait, à côté, de mener les deux activités de front. Et puis, on se rend compte petit à petit que c'est un modèle qui est un peu compliqué à tenir quand on est une jeune structure comme la nôtre. Ouais. Et alors, c'est triste à la fois pour nous, mais aussi pour le métier de maraîcher, parce que c'est vraiment ce qu'on défend, de se dire que ça peut être un métier d'avenir. Ouais. Mais il faut qu'il soit fait dans certaines conditions et qu'il faut qu'il soit bien entouré. Oui. Donc certaines conditions, c'est-à-dire que ce soit un métier intelligent, mm-hmm. c'est-à-dire de connaissance de la nature, de comment ça fonctionne et de comment on arrive à faire quelque chose de beau, de bon et qui n'abîme rien, ni c'est la ça. Terre, ni l'eau. Mm. Et puis un métier qui soit correctement rémunéré. Et ça
c'est plus
compliqué. Pas facile. Ouais. Et c'est tellement pas facile qu'effectivement pour nous... de dire qu'on a un maraîcher salarié pour l'association, eh bien, c'est assez lourd à porter, comme des métiers comme le mien de coordinatrice d'ailleurs. Ouais. Mmh. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois essentiels et en même temps, c'est des métiers qui sont difficiles à financer. Donc, on est en train de se dire que ce qui peut être intéressant pour continuer, par contre, d'appuyer ce métier, de l'encourager, et dans des zones comme ça d'interstices, hein, là, il y a 2 hectares ici sur le parc. Le parc fait 10 hectares.
D'accord.
Et nous, on a, avec un bail rural, 2 hectares. Mmh. Et on se dit que peut-être ces 2 hectares, on peut travailler avec des structures qui sont des professionnels de l'installation, comme les défis ruraux, comme D'accord. l'association Bio-Normandie, et participer à installer un maraîcher. Mmh. Via par exemple quelque chose qui serait un espace test.
D'accord.
Voilà.
Et qui serait indépendant et vous seriez un de ses principaux débouchés.
Voilà, on travaillerait ensemble, mais lui prendrait le risque en fait, lui. Alors ça ne veut pas dire qu'on se dédouane, hein, qu'on se dit bah voilà, on n'a pas réussi, c'est foutu, etc. Ça veut dire que ce métier-là est aussi un métier où les gens veulent s'installer, ils veulent effectivement se tester, prendre en main leur vie aussi, et pas forcément devenir salarié. Donc on va essayer ce modèle-là.
D'accord. Voilà. Donc. On est dans un temps de transition.
Oui.
Sur le modèle.
C'est vraiment un mot-clé, je crois.
Ouais, exactement. Parce que pour la conversation, l'expression que tu as choisie, c'est la question de transition alimentaire.
Ouais.
C'est ni la nourriture, comme je disais tout à l'heure, c'est ni la cuisine, c'est ni l'alimentation, c'est la transition alimentaire. Mmh. Est-ce que tu peux me dire ce que tu entends, toi, par cette expression ?
Eh ben, je dirais que c'est pas ni, c'est tout ça à la fois.
D'accord.
C'est tout ça à la fois. Alors, moi, j'aime bien ce mot de transition. Mmh. Souvent, quand on accueille des gens ici et quand je parle de ce qu'on fait, j'aime vraiment bien parler de transition parce que c'est quelque chose qui est en route. Mmh. Et ça veut dire qu'on admet tous qu'on part d'un point et qu'on va essayer d'aller vers un autre et qu'il faut travailler sur s'imaginer ce que ça va être, se donner les moyens de le faire. Mmh. Et surtout, ne pas être dans une culpabilité quotidienne.
Ouais.
Et c'est un peu difficile, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on sent bien qu'il y a une urgence, que autant on pouvait en parler entre nous dans les milieux, autant en ce moment, on sent que les alertes sont vraiment importantes, elles viennent de toutes parts, et donc on sait qu'il faut aller assez vite. Alors, c'est là où il faut la jouer un peu. C'est-à-dire comment on peut aller vite sans culpabiliser, tout en partageant une vision commune qui nous donne envie. Et ça, je trouve que c'est un sacré sujet, quoi.
Et ce mot de transition, donc, que tu emploies beaucoup, que tu aimes, avec le public, justement, des personnes qui peuvent être fragiles économiquement, avec qui vous travaillez beaucoup, est-ce que ce terme, ça leur parle? Est-ce que ça fait écho pour eux?
Ça leur parle si on explique justement, si on part d'eux en disant, ben voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'en discuter avec vous, d'y aller petit à petit, et nous, on dit pas, voilà, notre vision, c'est ça, et on a raison. Alors évidemment, on a une vision qui nous tient à cœur, on a un certain nombre de convictions. Moi, j'ai beaucoup de convictions là-dessus, en me disant, je suis sûre que la société telle qu'elle avance aujourd'hui sur le sujet, ça va pas. D'ailleurs, on le voit bien, ça rend pas les gens heureux, ça rend les gens malades. On perd le sens, on dit qu'on est connecté. Moi, je trouve qu'on est complètement déconnecté, c'est-à-dire se reconnecter avec des choses simples.
Ouais.
Et du coup, si on est avec eux, si on part de leur quotidien, du fait qu'on mange tous les jours. Hein, mmh. Le premier truc, c'est on mange tous les jours, en fait. Ouais. Hein, dans les choses qu'on fait tous les jours, on respire, on boit, on mange, on dort. Mmh. Il y a quand même une bonne base. Mmh. Et de dire, bah voilà, nous, au lieu d'utiliser tel produit, par exemple, au lieu d'utiliser tout le temps du lait de vache, des fois, on utilise du lait de soja, mmh. ou du lait d'amande, ou, ah bon, alors ça, on n'a jamais vu ça, qu'est-ce que, alors voilà, ça se présente comme ça. Mmh. Si on le mélange à ça, bah voilà, on va le faire ensemble, vous allez voir ce que ça va donner, puis on va goûter. Et donc mmh. là, on est aussi dans des notions vraiment où on fait appel à, on expérimente soi-même, sans se dire, il faut que je fasse ça, parce qu'évidemment, on parle aussi beaucoup de prix.
Oui. Hein.
Mais, on essaie d'introduire des mots comme la bio, enfin voilà, des choses comme ça, de dire un produit biologique, qu'est-ce que c'est ? On parle de la farine. Et Stéphanie, donc c'est Stéphanie qui anime beaucoup de ces ateliers avec qui je travaille, ma coéquipière, quoi, dit que c'est vrai qu'elle voit au fur et à mesure des gens qu'elle retrouve après qui disent « Bon, bah, j'ai acheté de la farine bio, hein, par exemple.
Mmh. » Ouais,
ouais. Et là, il y a quelque chose qui se passe déjà. Mmh. Mais il ne faut pas vouloir... c'est plutôt comme ça qu'on parle de transition, en disant « On va essayer des choses ensemble. Mmh. » Et puis, on va voir ce que ça donne.
Ouais.
Et puis, vous, quand vous allez rentrer, vous allez... Voilà. Mais on essaie de faire attention de ne pas culpabiliser. Même ouais. si, des fois, ce n'est pas qu'on ait envie de culpabiliser. Hein, mais moi, la première, surtout moi, Steph, elle fait plus attention. Mais moi, des fois, je peux être un peu... donner des images un peu fortes pour un peu bousculer ouais. ou avoir envie de déranger. Mais...
C'est pour faire attention, quoi. Ouais, c'est peut-être pas le levier le.
C'est pas le meilleur
le plus solide finalement.
Ouais. Pour faire... Et puis ça dépend. Il faut sentir aussi comment mmh. les gens sont et où est-ce qu'ils vous emmènent aussi, parce que aussi ils racontent des choses et donc ouais. on sait quand on peut y aller un peu mmh. plus ou pas. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que là où ça peut être une force, c'est de donner envie, quoi. Ouais, vraiment, ça, de se dire on peut faire autrement. Ça peut avoir l'air très chiant. Mmh. Mais peut-être que non. Mmh. Peut-être que c'est pas si. Ça peut être chouette de construire ce futur-là ensemble, quoi.
Ouais. Alors justement, ce futur, tu as parlé tout à l'heure de vision, d'imaginer. Faisons ce bond de 30 ans pour nous retrouver en 2050, nous deux, vieilles bonnes femmes, dans notre canapé. Et comment tu imagines cette transition alimentaire ? Donc, elle s'amorce aujourd'hui. Sans doute va-t-elle se développer, enfin se déployer, c'est à toi de me dire. Et en 2050, à quoi ça ressemble, cette chose toute bête qui est de manger chaque jour quand on habite comme ça dans un territoire métropolitain comme ici à Rouen, autour de Rouen.
Alors, moi j'ai envie de parler ce que ce sera de bien, quoi. Ouais. Enfin, admettons qu'on ait réussi, quoi.
Allons-y, banco, je te suis.
quand je dis on, évidemment, c'est de dire que toute notre société, à différents niveaux, s'est mise en route mm-hmm. vers quelque chose qui soit soutenable.
Oui.
Et résilient, hein, c'est-à-dire quelque chose qui soit capable au fur et à mesure de se transformer pour faire face à tous les aléas. Et là, on sait qu'il va y avoir, qu'on va changer un peu de climat, hein, malgré tout ce qu'on va essayer, de ce qui va.
J'ai vu comment ça bloque là, la COP24.
Voilà, c'est compliqué. Ouais. Donc, on sait que le climat va changer, on sait que les gens vont continuer de venir quand même s'agglutiner dans les villes.
Oui.
Hein, donc c'est notre sujet aussi, nous, de dire qu'est-ce qu'on fait en ville autour de ça. Mais en même temps, si on a cette prise de conscience que... Alors peut-être que je parlerai des conditions après, mais ouais. imaginons d'abord. Mmh. Moi, je vois une ville très verte. Mmh. Si ça marche, la ville sera très verte. Mais alors pas n'importe quelle verdure, c'est-à-dire qu'elle sera le plus comestible possible.
Mmh.
Parce que ça veut dire qu'on aura retrouvé... Ce chemin qui nous mène à la terre.
Mmh.
Alors moi, je veux bien les habitats, enfin les potagers sur les toits, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'un peu sympa. Mais je me dis, ce serait super si dans tous les interstices de sol, mmh. on pourrait toujours cultiver.
Ouais.
On pouvait, si
Donc
on pouvait toujours
jardin,
cultiver,
quoi.
Ouais, mmh. une ville jardin.
Mmh. Mmh.
Parce que ça permettrait quoi ? Ça permettrait d'être au contact. Donc il y a une sorte de bien-être, parce que maintenant on a des tas d'études sur les gens qui jardinent, sur ce que ça peut apporter, à la fois d'être dehors, de voir les choses grandir, pousser, de mettre ça en œuvre en fait, parce ouais. qu'il y a quelque chose qui est juste de l'ordre de la vie en fait, de juste regarder la vie, comment elle se passe.
Ouais.
On sait qu'au niveau santé, les gens qui font ça ont une meilleure santé parce qu'ils mangent un peu plus de fruits et légumes, bizarrement ça crée des petits liens dans ouais. la tête. Qu'est-ce que je voulais dire? On sait que voilà, ça apporte aux gens, et puis ça va apporter une respiration. On sait que les villes vont devenir chaudes, hein, tout ce qui est lutte contre les îlots de chaleur. Donc, si on a cette idée de jardin, de ville jardinée, on va aller vers quelque chose de plus doux à tous les niveaux, je pense. Mm-hmm. Et puis, vers ce lien entre la ville et la campagne, qui est compliqué, là. C'est quand même compliqué. Aujourd'hui, il y a une espèce de coupure. Donc, il y a plein de choses qui se passent pour le retrouver. Mais si on peut imaginer qu'en 2050, il n'y a pas vraiment de frontières. Il y a quelque chose où, en interrelation, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais. Et puis, peut-être que je mets ma goutte d'eau dans ce que tu imagines. Oui. Parce que cette frontière entre l'urbain et le rural, elle est aussi très matérialisée par... les zones commerciales autour des villes et qui constituent un peu comme ça une barrière et ce sont des espaces qui sont très critiqués économiquement, socialement et peut-être qu'on pourra les remettre en herbe.
Peut-être que c'est un peu ça que je visualisais quand je disais frontière, tu vois, j'avais cette espèce de, tu sais, je faisais comme un cercle là avec un truc bien fermé et effectivement ces espèces de zones qui sont des zones finalement qui sont pas très humaines en plus. Quoi. Enfin voilà, on s'engouffre pour aller acheter. Alors, derrière tout ça, moi dans la transition, je mets aussi ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on change de vision sur être heureux, c'est acheter quoi. Ok, le pouvoir d'achat, j'entends, mais je pense que être heureux, c'est autre chose qu'acheter.
C'est ça. Ouais.
Et du coup, de se dire que cette barrière de, comme tu dis, de cette zone de parking, de transition, de ces zones commerciales, etc., d'activité, même si on voit qu'elles changent un peu de figure, les zones d'activité aujourd'hui sont mises en place. Là-dessus, pareil, on crée des interactions, ça s'interpénètre, et puis on crée peut-être des ceintures maraîchères à la place.
Ouais. Quelle place tu donnes à toutes les technologies? Parce que quand on parle futur, y compris sur les questions agricoles, on voit plein de questions de technique, le rôle des drones, etc. Toi, tu mets ça dans ton paysage de 2050 ou on s'en passe?
Moi, je suis un peu là-dessus. J'ai toujours un peu de mal avec la technologie, donc ceux qui me connaissent, des fois, ça les fait rire. Mais en même temps... Je sais pas, je me dis peut-être que je suis un peu handicapée et que c'est bien, mais je pense que c'est pas une solution humaine. Moi, je crois pas aux trans machin truc et aux trans déjà. Et puis en termes d'agriculture, je vois bien que évidemment le confort des agriculteurs. Mais alors là, on parle des gens qui ont des grandes cultures,
oui, c'est ça.
Hein, qui ont une centaine d'hectares, qui ont voilà avec des tracteurs et des choses connectées, etc. Moi, je pense que justement, cette douceur et le fait de recréer un écosystème dans lequel on a notre place, mais qui prend beaucoup plus en compte la nature et le lien qu'on a à la nature, ferait que ce serait fait avec parcimonie.
Oui.
Parce que ce qui va nous manquer si on développe trop de technologies, alors je ne sais pas si tu penses aux tours agricoles, là, parce qu'il y a
les fermes verticales.
Les fermes verticales.
L'hydroponie.
Bon, moi, ça, je ne crois pas du tout. Je vois pas du tout, et surtout, je pense que c'est un leurre. C'est-à-dire, je pense que si on veut réussir une transition, mais qu'on ne comprend pas ce qui nous relie aux éléments, pour moi, on passe à côté de quelque chose, et on va toujours être dans une fuite en avant.
Ouais.
Et c'est ce que moi, je cherche à retrouver déjà, moi. Et que j'aimerais bien emmener les gens là-dedans, tu vois. Là, je suis en train de m'intéresser aux plantes, au rôle des plantes, tu vois, l'herboristerie, tout ça. Et je me dis, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, une espèce de chose naturelle. On a été coupé de ça. Et si on retrouve ce lien en disant... en n'acceptant pas certaines choses, que les oiseaux disparaissent, que la biodiversité disparaisse, tu vois, qu'il y ait des plantes qu'on trouve plus en 50 ans, dans de temps, je me dis, si on n'accepte pas ça, mais qu'on accepte qu'on dépend de ça, mais c'est pas une dépendance mauvaise, que en fait, c'est encore une fois une histoire d'interaction.
Ouais, c'est pas une dépendance dans le sens addiction, non,
c'est une interaction qu'on a oubliée. Et bien, je pense qu'effectivement, il y aurait plus de cette douceur, ouais, je pense, qui me tient à cœur, de transition douce. Moi, j'aimerais bien. Après, là, je vois que ça va être compliqué.
Ouais. Alors, justement, les conditions pour aller vers ce chemin. Tu vois, là, donc, on est le 13 décembre, c'est ça? Donc, on attend, a priori, un acte 5 des Gilets jaunes. Et ce que je trouve intéressant, c'est par exemple les blocages en Normandie, par exemple la zone commerciale de Tourville-la-Rivière, un grand centre commercial, a été bloquée à plusieurs moments. Donc on sent que les gens, naturellement, comme ça, ils disent c'est ces endroits-là qu'il faut bloquer. Ouais. Donc comme si ça incarnait en fait un temps de rupture avec ce modèle-là, et c'est peut-être une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer.
Toi, t'as envie de voir ça positivement.
Bah ouais.
On a tous envie de voir des signes qui nous emmènent vers quelque chose qui serait plus harmonieux et moins fixé sur l'avoir, quoi, en fait. Ouais. Moins fixé sur l'avoir, ça voudrait dire quoi aussi? Ça voudrait peut-être quand même dire qu'il y a du temps de dégager. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est fixé sur l'avoir aussi parce que c'est l'argent qui régente. Hein. Le but, c'est l'argent, quand même, globalement, pour tout. Mais même moi, quand je dis ça, je me méfie aussi de mes interstices intérieurs qui disent aussi que c'est là-dessus qu'il faut aller. Parce que on est tous construits autour de ça, en fait. Et peut-être qu'un idéal, ce serait de se dire, on a le temps de s'occuper soi-même. On sait comment on fait pousser nos légumes. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout soi-même non plus. Hein. Oui. Mais on sait faire un minimum de choses. On peut le faire ensemble. Mais tout ça, ça veut dire qu'on a du temps. Donc peut-être qu'on va moins vendre sa force de travail à l'extérieur. On fait plus les choses ensemble.
Ouais.
On apprend des choses différentes. On acquiert une forme d'autonomie. On travaille plus en échange. Et du coup, ouais, on va vers quelque chose où on a peut-être moins besoin de certains déplacements aussi, hein. Je sais pas, hein, j'imagine.
Mais c'est carrément un autre monde
ouais.
que t'es en train d'imaginer, Karen. Je préfère te le dire tout de suite, avant qu'on continue.
Ouais. Ouais, il y a du chemin, c'est ça que tu veux
dire.
Ouais,
il y a du chemin, il y a du chemin. Et en même temps, tu vois, quand l'association Le Champ des Possibles sur la métropole de Rouen, l'association est mobilisée dans le cadre de l'accord local pour le climat. Est-ce que justement sur un territoire comme celui-ci, qui a beaucoup de ruralité, mais aussi une densité urbaine importante tout près d'ici, on est sur ce chemin tranquillement? Tu penses que les choses peuvent bouger, que les ingrédients de cette recette, de ce nouveau monde, est-ce qu'ils sont déjà tous posés sur la table? Mais après, il faut trouver les dosages.
Moi, je sais pas s'il y a encore tous les ingrédients. Moi, ce que je vois juste à l'échelle de quand j'ai commencé à monter le projet, hein, quand on a commencé tous à réfléchir, c'était il y a 5 ans, en fait, qu'on s'est dit qu'il faudrait réfléchir autour de ça, agriculture urbaine, bio, etc. Et en 50 ans, ça a quand même vachement changé.
En
5 ans. Alors, c'est pas que ça ait changé. Évidemment, on voudrait que ça aille plus vite, qu'il y ait plus de concret. Le projet qu'on a, par exemple, sur l'ancien hippodrome des Bruyères, dans le cadre de sa transformation en parc urbain, là, on l'a toujours, mais évidemment, il prend du retard parce que c'est des gros travaux, c'est un gros chantier. Pas forcément pour ce que nous, on va implanter, mais pour le parc lui-même. Donc, mais quand même, en 5 ans, tu vois, maintenant, il y a un projet alimentation territoriale qui est porté par la métropole. Il y a cette fameuse COP21, là, on vient d'avoir le forum il y a 10 jours. Voilà, donc il y a des choses qui bougent. Après, moi, franchement, je trouve que ça va pas assez vite. Mais on sent que ça, il y a une ligne qui bouge.
Ouais.
Après, franchir le cap d'après, tu vois, dire il faut moins manger de viande, moins manger de produits laitiers. Manger des lentilles, enfin voilà, changer tu vois de régime alimentaire, et puis se dire sur un territoire laisser des zones urbaines pour arrêter de construire, mais au contraire laisser du jardin, du maraîchage, etc. C'est compliqué parce qu'il y a plein de forces en présence, et que on voit bien que l'urbanisation, elle continue quand même à un rythme important. Donc de se dire que les zones comme d'anciennes fermes, c'est plus important de les garder, hein. Je pense par exemple à Bonsecours, là, sur lequel il y a pas mal de visions différentes sur cette zone qui est une ancienne ferme et qui va être construite. Se dire que
Bonsecours, c'est les bouillons ou c'est un autre chose?
Non, c'est autre chose en fait. C'est un territoire en fait, une zone. Hein, je sais plus, ça fait 1 ou 2 hectares, mais qui pareil, il y a encore un verger, il y a encore des choses là à préserver qui pourraient aller dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a une pression foncière.
Ouais.
Donc, c'est compliqué. Mais si on voyait ça comme une richesse, hein, moi je fais allusion, je sais que tu as interviewé Jean-Paul Torres, par exemple, hein, quand il parle de biodiversité et de la richesse qu'on peut trouver dans des espaces comme ça, et Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il faut, il nous faut quand même changer de vision. Et ça, bah, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que de se dire qu'un bout de terre, c'est une richesse.
Ouais.
Voilà. Mmh. Alors, je pense malheureusement qu'il y a aussi une vision capitaliste qui commence à le savoir du côté de la grande agriculture, parce que la demande en bio est très forte, par exemple, et qu'on sait qu'il y a des pays qui sont ravagés, enfin, la petite agriculture paysanne est ravagée par des gros investisseurs qui ont compris qu'il y aurait de l'argent à se faire là.
Ouais.
Donc ça aussi, maintenant, il va y avoir cette pression-là en plus. Donc comment, effectivement, sur un territoire urbain, on sauvegarde ces espaces-là et on les valorise et on en fait quelque chose qui porte en soi déjà une richesse, en fait, plutôt de se dire de toute façon, on peut plus rien en faire. Puis attends, il y a des sols pollués, hein. Tu sais, à Repinville, ici, on est à côté d'une casse. Moi, je dis aux gens, voilà notre espace, hein. On vous fait pas, on vous invite pas dans un grand parc. Voilà, c'est il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nature qui renaît, qui essaie d'être là et de se remettre en route. Donc, c'est comment on contribue à ça via nos gestes agricoles.
Ouais.
Comment on y participe, quoi.
Est-ce que la piste de la restauration collective en cantine, c'est un chantier indispensable, un pas qui est sans doute important à l'échelle d'une métropole, mais si par le levier de la commande publique, si d'un coup toutes les cantines du territoire passaient à respecter un cahier des charges de local, de saisonnalité, etc., est-ce que ça, c'est pas un levier extrêmement important pour permettre à des maraîchers de pouvoir s'installer justement en agriculture urbaine sur des petites surfaces, etc., quoi.
Ah oui, je pense que c'est un levier. Bah, c'est-à-dire que, voilà, ça veut dire que... ça veut dire que tout ce qu'on peut dire à côté, dire que c'est pas la peine de manger de tomates en hiver, bon, bah, dans les cantines, moi, je vois bien. T'as mangé quoi ce midi? Des tomates? On est en plein mois de janvier.
Ben oui.
Donc, si on peut être en cohérence pour les enfants... si on peut être en cohérence parce que ça permet effectivement de dire il y a des maraîchers locaux qui peuvent vivre de ça, tout le monde fait avancer Schmilblick et on est fiers aussi, parce que moi j'ai déjà discuté effectivement avec les gens qui s'occupent de la restauration collective et ils ont envie que ça avance. Après, il y a pas mal de contraintes parce que c'est des marchés, il y a des lots sur tel type de produit, parce que ça veut dire qu'il faut que ceux qui cuisinent, que les installations soient revues à certains endroits parce qu'elles sont plus faites pour ça, hein, pour éplucher, pour etc. Ça veut dire qu'il faut transformer les menus, faut les voir autrement. Donc on voit bien que ça nécessite de bouger à tous les niveaux.
C'est ça, c'est pas juste un pion qu'on déplace, c'est une chaîne en fait.
Ouais. Et je pense que ça reflète bien. C'est pour ça que moi j'aime bien dire, à partir du moment où on commence à parler de ce qu'on mange, on peut tirer tous les fils de la transition écologique, et on peut parler d'écologie à tous les niveaux. Parce que c'est global, en fait, l'alimentation. Ça nécessite, effectivement, d'y aller tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est toutes sortes de métiers confondus ensemble pour converger vers ça. Mais c'est les enjeux de la transition écologique. D'ailleurs, ça a été redit... à Rouen, il y a 10 jours aussi, il y a 15 jours, c'est de dire, on n'y arrivera pas si on reste chacun dans son silo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne développe pas des visions transversales pour résoudre ces problèmes-là, comment faire, quoi.
Alors, tout à l'heure, tu as évoqué les grandes entreprises ou le capitalisme ou l'industrie de l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture biologique. Est-ce que justement tu penses que cette transition alimentaire et écologique plus largement, elle a les reins suffisamment solides en termes de portage, de demande citoyenne, pour aussi infléchir là-dessus? Parce que tant qu'on aura des multinationales de supermarchés qui alimentent en tomates en hiver, en fraises hors sol, etc., le rapport de force, quoi.
Je sais pas. Il y a des jours où je me dis, oh, oui, ça y est, il y a un truc. Parce que je ne sais plus combien il faut être, à l'échelle, le pourcentage, a priori, pour pouvoir changer la société, il faut être un certain pourcentage et de se dire, et là, il y a quelque chose qui peut commencer à basculer. Parce qu'il y a une conviction des citoyens. Moi, je crois que d'après mes calculs, on y est, selon les approches, mais...
Donc l'effet boule de neige, on y est presque, il faut juste...
Ouais. Après, t'as dû regarder après-demain.
Non.
T'as pas regardé après-demain.
Mais j'ai pas la télé en français, j'ai plus la télé en français. je ne vois plus rien.
Bon, effectivement, ce que Cyril Dion défend, là, c'est de se dire, il est allé rencontrer le PDG de Danone,
ouais.
qui s'inscrit dans un label Bicorp, qui est un label très exigeant, en fait, sur un certain nombre de choses, hein, à la fois sociales, environnementales, etc. Et lui dit, voilà, bon, alors ils ont, il y a, un petit jeu dans le documentaire, tu vois, de, ouais, enfin bon, quand même, ça reste une grande multinationale, tatatala. Oui, mais bon, ils s'y mettent. Et on est coincé là-dedans, je crois. Et en même temps, eh ben, c'est vrai que j'ai envie de dire, oh, pff, non, mais attends, les grosses boîtes, là, elles ont aucun intérêt à s'y mettre. Et en même temps, si elles s'y mettent, il se passe quelque chose aussi.
Ouais.
Parce que, de toute façon, elles sont là. Donc évidemment, moi le discours que je tiens, c'est dire surtout essayer d'acheter le moins possible ces trucs-là, enfin tout ce qui est alimentation transformée, pour tout un tas de raisons, mais aussi des raisons sociales, parce qu'on sait que derrière, ça détruit un certain nombre de choses. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est un problème pour l'eau, c'est un problème pour les terres, socialement c'est pas toujours top. Ouais. Ben voilà, on retombe toujours sur les mêmes données, et mais en même temps, on aime bien bouffer des cochonneries de temps en temps.
Oui,
hein.
Oui,
c'est on le dit aussi ici, parce que sinon c'est dans la
fin. Oui, c'est ça.
Faut... C'est trop dur.
Ouais, exactement.
Enfin voilà, moi je dis.
Ouais, le pas, faut pas qu'il soit si grand que ça. Quoi.
Voilà, donc parce que c'est le monde dans lequel on vit. Et j'avoue que des fois, je me dis, bon, ben moi j'ai pris le chemin de transformer de l'intérieur, mais des fois on aurait envie de se mettre à l'extérieur, c'est-à-dire, bon, je vais faire autrement.
Ouais.
Donc, cette échelle-là, je trouve qu'elle est, elle est difficile. Et en même temps, je t'avoue que là, quand le documentaire a été fini, et puis il y a eu un petit débat à la fin, enfin, il y a eu Cyril Dion était invité, enfin, non, c'était pas lui, c'était Pascal Canfin du WWF. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire, ouais, non, c'est quand même des gestes importants. Il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen. Mais alors, le courage qu'il faut qu'on ait tous, et puis c'est surtout la niaque, quoi. Parce
c'est ça, c'est de la détermination.
Ouais, la détermination.
Cette transition alimentaire, elle ne se fera pas sans détermination.
Ouais. Alors, je trouve que, tu vois, si tu reviens, tu me disais la douceur, là, que tu avais apprécié ce mot-là.
Ouais.
Bah c'est vrai que des fois, être déterminé, t'as l'impression que c'est passé des fois un peu en force, quoi. Et en fait, c'est pas bon non plus pour chacun d'entre nous. Alors,
ouais,
c'est ça qui est compliqué. Parce
qu'il
faut qu'on prenne soin de nous.
C'est ça.
Faut qu'on prenne soin les uns des autres et de nous, quoi. Parce que si c'est pour crever avant d'arriver là où on voulait.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu dommage, peut-être.
Ouais. Il faut de la douceur, de la détermination pour activer aujourd'hui les leviers nécessaires pour arriver à ce point B qui est pas en même temps j'ai l'impression que ce point B il n'existe pas, il sera toujours plus loin parce que je pense que cette transition en 2050, il y aura d'autres enjeux et on
puis peut-être que par définition la transition c'est infini.
Voilà, c'est ça exactement. C'est
parce
un cheminement.
De toute façon, tout est toujours en mouvement. Après, c'est de se dire ouais, voilà. C'est bien, là, on est peut-être en train de voir qu'on s'est gouré de route, donc si on peut essayer autre chose. En fait, c'est ça, essayons autre chose. On n'est pas sûr de là où on va arriver, on n'est pas sûr ce que ça va donner, mais ce serait dommage de ne pas essayer autre chose.
Ouais,
quoi, en fait.
Ouais.
Et tu vois, je trouve que, par exemple, quand on parle de permaculture, il y a cet esprit-là derrière. Alors, tout le monde s'en empare, avec plus ou moins de vision partagée ou pas, ou de, comment dirais-je, d'aspect un peu gadget de la chose, tu vois. Mais il y a ça, il y a essayons autre chose, essayons des petites solutions, essayons de ressembler à ce que fait la nature, essayons un système de santé qui travaille plus en amont aussi, tu vois, qui
le
soit plus sur garder la santé plutôt
voilà,
que voilà. Essayons d'autres types de gouvernance. Enfin, voilà, je me dis, tu vois, là, il y a une approche un peu globale qui, bah, puis qu'on voit qui peut porter ses fruits. On a des exemples maintenant, donc voilà, ça peut être ça.
Ouais. Et au-delà de cet exercice d'imagination, donc de ce monde de ville-jardin, de relations entre humains et non-humains empreintes de douceur, si, Karen, je te demande le matin quand tu te lèves, plutôt une vision optimiste ou voilà, ce qu'on s'est dit là, c'est pour toi c'est une utopie ou c'est...
C'est quoi l'utopie nécessaire, quoi, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça.
Bah, écoute, en fait, je crois que c'est plutôt ça va se faire. C'est plutôt, je sais pas. J'ai l'impression que personnellement, j'ai pas le choix.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai pas le choix, mais c'est porteur. C'est pas, j'ai pas le choix parce que.
Ouais, c'est, t'as pas le choix, mais c'est, t'es pas dans la position de subir. Tu te dis.
Et justement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de pas rester dans on subit. Parce qu'on peut avoir cette sensation-là de dire on hérite d'une situation. Tu vois, ça peut être facile de dire bah oui, mais vous avez pas fait ce qu'il fallait il y a 40 ans. Bah oui, mais moi, quand je suis née. Mais bon, voilà, je suis là, on est là. Bah qu'est-ce qu'on fait? Justement, on a toujours le choix de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Donc, moi, aujourd'hui, enfin, c'est ce que je me dis, chacun, on peut se poser comme question, mais avec les difficultés qu'on a dans nos vies perso et tout ce qu'on se trimballe tous, hein, c'est peut-être de faire la part des choses entre, bah, je sais pas moi qui vais sauver le monde, moi, chacun d'entre nous, mais j'ai le choix. J'ai quand même le choix chaque jour.
Ouais.
Je peux faire mes choix.
Ouais,
ils sont contraints. C'est sûr qu'ils sont contraints, ces choix-là. Et je peux pas toujours tout décortiquer de ce qui me pousse à choisir telle chose ou telle chose, parce que c'est complexe ce qui se passe en chacun d'entre nous. Mais justement, plus on en parle ensemble et plus on se pose de questions, plus on est à même de retrouver cette autonomie, de réfléchir peut-être différemment. Et même si c'est petit, même si on a l'impression que c'est lent, même je me dis, on peut mettre en route, mais c'est bien de s'appuyer les uns sur les autres pour ça.
Ouais, l'importance du collectif pour prendre ce chemin de la transition. Quand tu dis, on peut chacun choisir des options, etc. Je repense à la fable du colibri, qu'en fait que maintenant je supporte quasiment plus.
Pourquoi ?
Parce que j'ai le sentiment que elle est notamment utilisée par la sphère politique pour renvoyer la question écologique aux actes et éco-gestes individuels, alors que il faudra, enfin, alors déjà je connais pas la fable en entier, mais il faudra un deuxième chapitre qui dit ok, les colibris c'est bien, mais il y a un moment où il faut que la puissance publique elle ose appuyer sur les leviers qui font bouger les choses, parce que les colibris, ils ont beau être des millions, la forêt, enfin le feu, ils l'éteignent pas, quoi.
Et les messages sont contradictoires. C'est pour ça que je dis, quand on dit on peut faire des choix chaque jour, mais ce sont des choix contraints, c'est ça aussi, c'est que on se trimballe ces grandes décisions qui ne sont pas prises.
Ouais, c'est ça.
Et qui nous font vaciller ou hésiter ou
en gros
ou
on
avoir
dit,
envie de dire eh oh, moi je
c'est vous bon, dites vous êtes les colibris, et en même temps ceux qui te disent ça ils jettent de l'essence et que le feu continue pour que le feu continue à s'éteindre.
Exactement.
Tu sais, c'est un peu ça.
Ouais.
C'est pour ça que je l'aime plus trop, cette femme du colibri. Il est temps, Karen, de formuler un vœu pour 2050.
On n'a pas assez fait, là.
Ouais, c'est vrai, on en a fait pas mal. Il en faut un petit dernier.
Un vœu. Pour 2050. Ça va avec ce qu'on a imaginé, quoi.
Ouais.
Moi, je reste là-dessus. Je pense que si on retrouve une écologie profonde, si on retrouve le lien à nous-mêmes en même temps qu'à la nature, il y a un truc qui peut s'enclencher. Donc moi, j'ai envie de dire, et c'est pas les bisounours, hein, ce que je suis en train de dire, c'est de comprendre ce lien-là, de comprendre qu'on appartient à un ensemble plus grand. Bah, c'est ce vœu que j'ai envie de faire, de dire, on comprend qu'on est dans quelque chose de plus grand qui nous dépasse.
Oui.
Et que si on va dans ce sens-là, ça va aller beaucoup mieux.
Ah, très bien. Ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien. En plus, tu dis ça, il y a un rayon de soleil qui arrive sur nous et c'est magnifique. Bah, merci beaucoup, Karen.
Bah, merci. C'est toujours chouette de parler de tout ça.
Ouais, c'est chouette.
Alors évidemment, dans le descriptif de l'épisode, vous trouverez les liens vers l'association Le Champ des Possibles, ainsi que vers l'accord local pour le climat de la métropole Rouen-Normandie. Il continue d'ailleurs à organiser de nombreux ateliers thématiques pour engager toujours plus d'habitants du territoire et d'acteurs locaux dans cette démarche. Si vous connaissez d'autres initiatives du même type que ce que fait Karen au quotidien, faites-le-moi savoir sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode et tous ceux que vous aimez autour de vous. Ouais, ça me ferait vachement plaisir. On se donne rendez-vous rapidement ? Ouais, ok. En attendant, soyons toujours curieux.